Bonjour Laurence Boone.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste à l'OCDE. Le gouvernement français vient de réduire ses prévisions de croissance pour 2019. On attend pour mardi les prévisions de croissance mondiale du FMI. Question donc ce matin sur la croissance et on vous promet d'être pédagogue ce matin. Peut-être d'ailleurs faut-il commencer par définir la vocation de cet organisme international qu'est l'OCDE, l'organisme de développement économique, de coopération et développement économique. Il sert à quoi cet organisme ?
Alors, il a été fondé après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du plan Marshall pour aider à la reconstruction de l'Europe.
Dans les années 60, je pense, l'OCDE, non ?
Exactement. Oui, ouais. Et aujourd'hui, il regroupe 35 États membres. Et la vocation de l'OCDE, c'est de partager les expériences en matière de politique économique de tous les pays pour en tirer les meilleures pratiques. Et quand quelqu'un a envie, quand un gouvernement a envie de mettre en place une politique, on lui dit, voilà ce que les autres ont fait, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché.
Et vos prévisions de croissance mondiale pour 2019-2020 ne sont pas très optimistes. Elles sont révisées à la baisse. Du coup, le gouvernement les revoit aussi à la baisse. C'est vous qui donnez le « là » à Bercy ?
J'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas.
Il s'en inspire beaucoup ?
En fait, on sert à ça. On sert à lancer le débat, à faire réfléchir. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée, alors j'espère que ce n'est pas corrélé, mais la croissance n'a cessé de ralentir. Et très tôt, on a pris le bâton à l'OCDE de dire, écoutez, la croissance est en train de ralentir, il se passe des choses dans le monde. Il faut absolument qu'on commence à parler des outils, des solutions. Et depuis le mois de novembre, en fait, on dit très fort, il faut que les gouvernements se parlent, d'abord pour résoudre des tensions commerciales, et ensuite qu'ils pensent à ce qu'ils peuvent faire avec leur instrument budgétaire.
Des réformes vraiment de fond à ce moment-là qui ferait ensemble, c'est ça ? Mais pour la France, Laurence Boone, comment est-ce qu'on peut expliquer justement ces prévisions de croissance revues à la baisse ? Parce qu'il y avait plutôt une résistance qui était meilleure en France que dans d'autres pays, notamment parce qu'on est peut-être moins dépendant que d'autres pays à l'export, par exemple.
Absolument. D'ailleurs, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup moins revu les prévisions de croissance pour la France que pour d'autres pays.
On est passé de 1,5 à 1,3, c'est ça ?
Exactement. Alors que si vous regardez l'Allemagne, par exemple, on est passé de 1,7, 1,8 à moins de 1.
Sauf que l'Allemagne aussi. Sauf que l'Allemagne, vous parlez de l'Allemagne, elle exporte énormément. C'est un des pays européens qui exporte le plus, et notamment avec la Chine. Donc
exactement.
Elle prend de plein fouet le resserrement de la Chine.
L'Allemagne, elle prend de plein fouet les tensions commerciales, qui quand même, ça crée beaucoup d'incertitudes. Donc les entreprises investissent moins, recrutent moins, elles sont plus dans les expectatives, elles regardent ce qui se passe. Elle se prend de plein fouet le ralentissement de l'Allemagne, parce que l'Allemagne importait beaucoup, notamment des produits que fabrique la Chine, importait beaucoup de produits fabriqués par l'Allemagne. Et aussi la Turquie. On l'oublie parfois, mais la Turquie, c'est un de nos gros pays destinataires d'exportation. Or, eux, ils sont dans une très grosse récession.
On va parler des pays européens et internationaux tout à l'heure. Je voudrais revenir à cette croissance en baisse en France. La croissance, c'est la consommation. Et or, en France, les salaires ont tendance à augmenter modestement, mais ils augmentent. Est-ce que c'est de nature à amortir cette baisse de la croissance ?
Absolument. En fait, le facteur le plus important pour la croissance en France, c'est effectivement la consommation des ménages et puis l'investissement des entreprises. Et les exportations, ça joue un rôle, mais moins important. Et donc, on a un marché du travail qui marche pour le coup pas mal, puisque le taux de chômage continue de baisser et les salaires continuent d'augmenter. Alors, bien sûr, tout le monde n'en bénéficie pas de la même façon, mais ça fournit quand même un coussin en cas de choc sur l'économie extérieure.
Oui, il y a encore beaucoup d'inégalités, mais est-ce que l'argent en France est bien redistribué ?
Alors ça, c'est une question très très intéressante. L'argent est très bien redistribué vers les pauvres. On corrige beaucoup la pauvreté, on en a beaucoup moins que nos voisins. En revanche, quand on regarde les classes moyennes, celles qui sont un peu juste au-dessus des 20% les plus pauvres, c'est vrai que là, on a moins de redistribution, on a très peu eu d'augmentation du pouvoir d'achat.
Et il faut encore faire beaucoup de choses sur l'égalité des chances, notamment par la formation, l'éducation.
Alors pour moi, c'est vraiment la question clé. C'est la capacité, ça commence tout petit, c'est l'accès aux crèches. Et quand on est dans des territoires éloignés, on y a moins accès. Et pourtant, c'est là que se fait la sociabilité, l'éveil, etc. C'est l'accès aux écoles, c'est l'accès à l'information. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes à l'école et puis après, c'est tout au long de la vie aussi l'accès aux formations. Puisqu'on sait très bien que les cadres supérieurs ont beaucoup plus d'accès à la formation que les gens qui sont moins qualifiés. Or, c'est eux qui en ont le plus besoin.
Les baisses d'impôts également. Dans le JDD ce matin, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, explique que dans ce contexte de ralentissement de la croissance, les baisses d'impôts vont continuer de s'amplifier. Ça va donc dans le bon sens aux yeux de l'OCDE ?
Alors, on dit deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il faut arriver à baisser un peu les impôts en France, mais probablement, il faut recibler les dépenses publiques. Vous savez, on a commencé à construire notre système social dans les années 60, 70. On vivait pas du tout de la même façon à l'époque. On divorçait peu. On passait 2 ans à la retraite, pas 15. On était au chômage 2 mois, pas 2 ans. Et finalement, on a empilé pas mal de couches au lieu de réviser ce qu'on avait fait avant et de redistribuer l'argent vers ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel.
Quand vous dites empiler pas mal de couches, c'est-à-dire que quand le gouvernement lâche 10 milliards d'euros dans une contestation des gilets jaunes, c'est une couche qui ne servira pas à grand-chose, selon vous, pour la croissance ?
C'est un piège. Non, pas.
Non, je ne cherche pas à vous piéger.
Non, je rigole.
Je pose des questions.
Non, je pense qu'à ce moment-là de la crise des gilets jaunes, un signe fort était nécessaire et que par ailleurs, c'est ce qu'on venait de dire à l'instant. Il y a des classes moyennes inférieures, puisque on peut les qualifier comme ça en termes de revenus, qui ont effectivement un budget très très tendu et qui ont eu à ce moment-là besoin d'un coup de pouce. Et je pense que c'est important de le faire. C'était aussi un signal d'empathie. Et on en a besoin dans ce monde qui est un peu dur.
Dans cette même interview de Gérald Darmanin ce matin dans le JDD, il explique que la France s'en tire mieux que nos voisins européens en termes de croissance. Est-ce qu'il a raison ?
Oui, il a raison, pour le moment. Parce que
pour le moment, vous n'êtes pas très optimiste.
Je vais vous dire une chose. On est extrêmement intégrés. Je vous donne un exemple. Quand l'Allemagne exporte une voiture, dedans, il y a à peu près 10 à 15% de fabrication française et de fabrication italienne. Alors, c'est génial quand tout va bien, parce que quand l'Allemagne exporte plus, on est tous tirés. Ou quand nous, d'ailleurs, on exporte plus, on tire aussi les autres. En revanche, quand ça commence à aller moins bien, évidemment, on se tire tous un petit peu à la baisse. Ceci dit, c'est vrai que on prévoit pour la France un taux de croissance qui est significativement supérieure au reste de la zone euro.
Si on prend la zone euro, justement, les exportations, elles étaient proches de zéro fin 2018. Que s'est-il passé pour arriver à une telle dégringolade ? On n'exporte plus en Europe ? À partir de l'Europe ?
Non, il y a deux choses. Parce que c'est vrai pour l'Europe, mais c'est vrai aussi pour les exportations vers le reste du monde.
Oui, chez nous, interne à l'Europe,
et
entre
à
pays et vers les pays étrangers,
absolument.
Hors frontières européennes.
Et en fait, on voit la dégringolade du taux de croissance des exports, hein, donc
le taux de croissance des exports, ouais. Bien sûr.
On en voit la dégringolade à peu près début 2017, quand vont commencer les tensions commerciales initiées, on peut le dire quand même, par les États-Unis. Et ça, ça a un impact très très rapide, puisqu'en fait, chaque entreprise face à ça se dit, j'avais un plan de développement au Mexique, les États-Unis vont barrer les importations du Mexique. Qu'est-ce que je fais avec mon entreprise finalement ? Mais j'attends. Donc je n'investis pas là, je n'emploie pas pour ça, et ça entraîne un effet de ralentissement. Vous savez, ils ont mis des tarifs, donc des impôts à l'importation des machines à laver. Le prix des machines à laver aux États-Unis a bondi de 20%. Donc on voit de façon très très matérielle en fait quand il se passe quelque chose sur ces tensions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont entre la Chine et les États-Unis, mais il va y avoir négociations entre les États-Unis et l'Europe. Donc on est tous dans cette
attitude. On va rester sur l'Europe.
Oui, comment vous recevoir, sans parler évidemment du Brexit, hein, Laurence Boone, cette histoire rocambolesque. En quoi est-ce que ça ajoute et dans quelle mesure ça ajoute à l'incertitude et à la vulnérabilité de l'Europe?
Alors là aussi, vous avez raison, ça ajoute. Quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, depuis le début des négociations sur le Brexit, il n'y a plus d'augmentation des investissements au Royaume-Uni. Quand on regarde la ligne des investissements, c'est un encéphalogramme plat. Et si on regarde par rapport à nous, en gros, ils croissent en ralenti par rapport à nous. Donc évidemment, les biens, ils importent beaucoup moins de biens et de services qu'on pouvait leur fournir. Et ça aussi, ça nous pénalise. Quand je dis nous, c'est l'Europe.
Du point de vue de l'OCDE, une sortie sans accord de la Grande-Bretagne, c'est la pire des solutions ?
Oui, c'est une très mauvaise solution et ça fera un choc à court et à moyen terme. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a accès à un marché européen de 500 millions de consommateurs. Ça veut dire qu'une entreprise qui s'installe au Royaume-Uni, elle se dit « j'ai accès à ces 500 millions de consommateurs ». Et vous le voyez par exemple avec les entreprises automobiles japonaises qui retirent au fur et à mesure leurs usines. Et en plus, si ça s'arrête brutalement, mais il y a des chaînes de production, prenez l'Airbus. Il est fabriqué au Royaume-Uni, en France, en Allemagne. Tout d'un coup, on a des barrières dans tous les sens et ça perturbe complètement la production.
Pour Theresa May, elle l'a dit récemment, le choix se résume désormais entre la sortie du Royaume-Uni avec un accord ou bien pas de sortie du tout. Ça devrait vous rassurer à l'OCDE. Pas vraiment. Je vous vois faire une petite moue quand je vous dis ça.
J'aimerais bien être à la table des négociations, mais je ne suis pas. Et c'est vrai que c'est pas très rassurant quand on entend ça.
C'est le grand flou, effectivement. Ça fait plus d'un an que le FMI met en garde contre la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avec des répercussions sur la croissance mondiale. Ce conflit entre les États-Unis et la Chine, ça reste le principal point de tension de la croissance
en fait,
dans le monde.
C'est le fait qu'on n'ait plus de cadre international pour régler les échanges commerciaux. Avant, on avait l'Organisation mondiale du commerce, et si vous aviez un problème avec un pays parce qu'il ne respectait pas les règles, vous y alliez et puis vous pouviez en discuter entre gens civilisés. Aujourd'hui, on est passé à un rapport de force et on ne sait jamais comment le rapport de force va évoluer. Donc là, c'est entre la Chine et les États-Unis, c'est quand même deux gros moteurs de la croissance mondiale. La Chine, c'est à peu près un tiers de la croissance mondiale ces dernières années. Demain, ça va être entre les États-Unis et l'Europe. Et on exporte énormément vers les États-Unis, hein, notamment des voitures. Ça va toucher encore l'Allemagne qui est déjà affaiblie. Après, ça peut être les États-Unis et le Royaume-Uni. En fait, cette incertitude, c'est terrible. On a plus, c'est comme si on n'avait plus de système judiciaire en France.
Quel pourrait être le rôle des femmes ? Quel est le rôle des femmes dans l'économie de haut en bas, hein. Trois femmes chefs économistes au FMI, à la Banque mondiale et donc vous à l'OCDE. Je lisais une interview de Christine Lagarde récemment qui disait que, par exemple, si les femmes, les Lehman Brothers, ce scandale ne serait jamais arrivé si des femmes avaient été à la barre à ce moment-là. Elles tempèrent, elles sont plus, peut-être plus les pieds sur terre, moins joueuses, moins...
D'abord, elles font deux choses. Dans beaucoup de pays, vous avez encore pas assez de femmes qui travaillent, qui ont accès au marché du travail. On parlait de l'Italie et des problèmes italiens. Ouais. L'Italie est le pays qui, c'est le troisième dans les pays de l'OCDE qui a le moins de femmes qui travaillent. Seuls 49% des femmes en âge de travailler. Donc ça crée moins de richesses. C'est déjà un problème en soi parce que pour redistribuer, il faut des richesses. Et la seconde chose, effectivement, il y a des études économiques très sérieuses qui montrent qu'il faut une diversité dans les instances dirigeantes. Parce que
il faut les hommes
personnes...
pour prendre un peu des risques, non ? Et puis les femmes pour modérer ?
Pour tempérer.
C'est ce que ces études montrent, absolument.
Notre invité ce matin, Laurence Boone, chef économiste à l'OCDE, question sur la croissance. Aux États-Unis, diriez-vous qu'il y a une instrumentalisation de la justice américaine à des fins de guerre économique contre l'Europe ? C'est ce que dit le rapport Gauvin qui est paru récemment.
Alors, je pense qu'il y a une vue de l'économie qui est un tout petit peu étroite. Hein, et par exemple, quand Donald Trump regarde les déficits commerciaux bilatéraux, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, mais c'est une réalité. Il y a bien en ce moment des opérations juridiques pour dénoncer les industries européennes comme fraudeuses et mises au ban de l'économie américaine, du coup.
Mais quand je dis que ça n'a pas de sens, c'est effectivement parce que ça, c'est un argument politique qui ne repose sur aucune fondation économique. Regardez les États-Unis et le Mexique. À peu près un tiers à 40% de produits que les États-Unis importent du Mexique contient des pièces fabriquées aux États-Unis. Donc en gros, quand ils mettent une barrière sur les importations mexicaines, ils tuent une partie. Exactement.
Quels sont d'ailleurs les outils à disposition des entreprises françaises, enfin européennes et françaises surtout, pour se défendre des accusations de fraude de la justice américaine ?
Alors avant, on a toujours d'ailleurs une Organisation mondiale du commerce qui était quand même l'institution qui est chargée de gérer ce genre de choses. Aujourd'hui, effectivement, elle est affaiblie. Donc là où Trump n'a pas tout à fait tort, c'est que cette institution met très longtemps à régler des différends et encore, c'est encore plus difficile pour mettre en œuvre les sanctions ou les mesures qui sont prises. Donc il y a une réforme. D'ailleurs, la France a appelé à une réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Mais elle est à faire ensemble. Elle n'est pas à faire en faisant des guerres bilatérales qui perturbent toute l'économie mondiale. Rappelez-vous qu'en 2017, on croissait tous de façon synchronisée à des rythmes incroyables. Ça a complètement cassé la croissance.
On ne le verra plus jamais, cette autre croissance.
Je pense qu'on aura du mal à retrouver l'ampleur de cette hausse. Parce qu'on a créé beaucoup d'incertitudes sur la parole donnée, sur la valeur des contrats, sur les échanges commerciaux.
Et sur la mondialisation, Laurence Boone, est-ce qu'elle n'est pas en train de changer ? Est-ce que c'est, je ne sais pas si elle prend un nouveau souffle ou si au contraire elle réduit un peu la voilure à l'heure actuelle ?
De toute façon, elle change et elle change avec le numérique et avec la on dit pas digitalisation en français, avec la numérisation de la production, des services et des biens. Et en fait,
c'est souvent, aussi une menace sur certains. Il y a aussi une menace sur certains métiers. Hein,
oui, notamment. Absolument. Et souvent, on accuse la mondialisation de tous les maux, mais la vérité, c'est que les plus gros changements viennent du numérique. Nous, on a fait des études et comme d'autres, on trouve que à un horizon de 10 ans, à peu près 14% des emplois auront disparu, 30% auront changé de nature. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément les peu qualifiés, c'est les emplois moyennement qualifiés avec une certaine répétition. Donc ça va bouleverser la façon dont on fonctionne. Et j'allais dire, on ferait mieux de s'occuper de ça aujourd'hui que de se faire des guerres commerciales qui n'ont pas beaucoup de sens.
Et aussi peut-être de s'occuper mieux des systèmes de taxation, non ? Parce que est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y a un accord global là-dessus ? C'est-à-dire que chaque entreprise paye ce qu'elle doit payer là où elle produit.
Absolument.
Là où les produits sont vendus, etc.
Je pense que c'est une très bonne réponse, à la fois économique et à la fois politique. D'ailleurs, ça existe déjà. Dans le cadre de l'OCDE, on a lancé, et c'est mis en œuvre par plus d'une centaine de pays, quelque chose qui s'appelle l'échange automatique d'informations sur où les entreprises créent de la valeur, emploient, vendent. Et on est en train de discuter, il y a plus de 120 pays autour de la table, en train de discuter comment est-ce qu'on peut faire un système où les entreprises sont taxées, là où elles créent de la valeur, là où elles emploient des gens, là où elles vendent et font du profit.
Un mot sur l'Europe. La Banque Centrale Européenne tente aussi d'amortir cette baisse de croissance en gardant des taux d'intérêt assez bas, en favorisant aussi les prêts aux banques. Que peut faire la BCE, la Banque Centrale Européenne, que peut-elle faire de plus ?
Alors, j'ai un combat depuis que je suis arrivée à l'OCDE qui est de dire la BCE a fait énormément. Les taux sont à zéro et parfois négatifs.
Autant pour les particuliers que pour les entreprises.
Absolument. Vous pouvez avoir un emprunt immobilier aujourd'hui à un taux qui est moins de 20% sur 15 ans, ce qui est quand même colossal. Maintenant, elle a fait beaucoup de choses. Je pense que c'est pas sain qu'elle continue. Il faut passer le bâton aux États. Et là aussi, les États peuvent faire beaucoup de choses. Et en Europe, surtout, on a de la chance.
Quelle réforme structurelle des États en Europe pour s'harmoniser un peu mieux ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, je pense qu'il y a une action budgétaire. Vous avez beaucoup de pays dans le nord de l'Europe qui n'ont pas fait d'investissement public depuis des décennies.
Mais parce qu'ils sont endettés, il faut encore qu'ils s'endettent.
Non, je parle du nord de l'Europe qui est très peu endetté. On va prendre un cas particulier. On va prendre l'Allemagne.
Je parlais du sud de l'Europe, moi.
Oui, mais ça bénéficie aux autres. L'Allemagne, elle fonctionne à plein aujourd'hui. Donc si elle a besoin de construire une route, elle va être obligée de faire appel à une entreprise italienne ou française ou espagnole. Elle va être obligée d'acheter des matériaux aussi dans le sud de l'Europe. Donc même elle, quand elle investit chez elle...
Donc des infrastructures à construire, ça profitera à tout le monde en Europe.
Exactement, ça c'est la première chose et ça évite justement de faire des erreurs politiques comme l'Italie qui se mettrait à dépenser à nouveau un point de PIB quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, quand on parle des réformes structurelles, c'est souvent un nom barbare, mais en fait c'est des choses simples, c'est le système éducatif, c'est simplifier les procédures administratives pour que ce soit facile pour vous de créer une entreprise.
Faire en France.
Et partout, j'étais en Italie pour une conférence et quand on parle avec les entrepreneurs italiens, ils vous décrivent une situation administrative qui est super compliquée. Je vais vous donner juste un exemple. Si vous avez un différend commercial, en Italie, en moyenne, ça prend 7 ans de le régler.
Et en France ?
C'est pas possible. En France, on parle de 1 an et demi.
6 ans et demi ? Un an et demi.
Il nous reste quelques secondes. Je voudrais terminer avec l'écologie. Croissance et écologie, est-ce que ce sont deux concepts qui sont définitivement incompatibles ?
Pas du tout. C'est le même défi que la numérisation. En fait, ça veut dire des investissements pour passer à des énergies plus propres. Et ça veut dire aussi reformer les gens qui, aujourd'hui, par exemple, pourraient travailler dans le charbon et qui, demain, vont devoir travailler dans les éoliennes.
Non, mais vous, à l'OCDE, est-ce qu'il y a des indices, on parle de la consommation comme indice de croissance, est-ce que vous prenez en compte, désormais, des indices liés à des mesures écologiques ?
Mais oui, c'est super sympa de me demander ça parce que dans un mois, on publie quelque chose justement qui est quelles sont les réformes que les pays doivent mettre en œuvre pour accroître leur croissance, accroître l'égalité entre les personnes et améliorer la qualité de vie, notamment environnementale.
Donc je reviens. Vous reviendrez nous en parler plus en détail avec plaisir. Ça veut dire véritablement que ces indices écologistes vont rentrer désormais dans des indices de croissance.
Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est super pragmatique. Ça affecte.
Il nous reste 20 secondes, pardon.
Ça affecte la santé des travailleurs, ça affecte la qualité de votre environnement et la façon dont vous travaillez et à quel point vous pouvez être productif.
Eh bien, vous reviendrez en parler ici.
Moi, ce que j'adore avec Laurence Boone, c'est que je comprends tout ce qu'elle dit.
Bah, c'est pour ça que nous l'avons invitée aussi. Merci Laurence Boone.
Merci à vous.
Chef économiste de l'OCDE et bonne journée.